dans le premier paragraphe, on voit la perfection du Seigneur en lui-même. Peut-être qu'on peut dire que ça représente toutes les années de la vie du Seigneur où il n'a pas vécu, avant qu'il entre dans son service public. Les 30 premières années de la vie du Seigneur. C'est une proposition de compréhension. Donc, et à partir du verset 4, quand on cuit la farine pour en faire des gâteaux, des galettes, ça pourrait représenter davantage la période de la vie du Seigneur où il a servi en public, et la cuisson nous parlerait dans ce cas-là des épreuves qu'il a subies dans son service public. Donc, les premiers paragraphes, je répète, on pourrait penser à la vie du Seigneur, l'enfant parfait, l'enfant qui avait 12 ans, qui était au temple, l'enfant qui était soumis à ses parents, de Luc chapitre 2, par exemple. Donc, celui qui était charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans, qui travaillait avec son père, on ne sait pas précisément, on n'a pas de révélation sur cette période-là précise, mais il nous est dit que il était charpentier. Donc, on peut imaginer quel ouvrier, bon ouvrier, parfait ouvrier, ouvrier serviable il était. Donc, tout ça... peut-être donc nous parle de la vie du Seigneur avant qu'il soit manifesté en public. Et donc peut-être à partir du verset 4, avec ses modes de cuisson, le Seigneur qui est entré clairement dans son service public et qui a subi des oppositions, des tribulations, des épreuves, qui sont représentées par les cuissons. Donc, on voit qu'il y avait des cuissons au four. Le four, c'est quelque chose de fermé. Et peut-être que ça représente des souffrances que seul le Seigneur a ressenties et que nous, on ne connaît pas tellement. Par exemple, quand il est dit que le Seigneur, il a été 40 jours dans le désert tenté par le diable, eh bien, on ne connaît pas ce qu'ont été ces 40 jours-là. On ne connaît que ce qui s'est passé à la fin, les trois fameuses tentations qui nous sont rapportées. Mais tout ce qui s'est passé pendant les 40 jours, on ne le connaît pas. Mais la Bible nous dit qu'il a été tenté par le diable. Et donc, peut-être que ce sont la cuisson dans le four, quelque chose d'intense, mais quelque chose que lui seul a connu, et que même nous, on ne connaît pas. Mais que Dieu a vu et qui est monté en odeur agréable à Dieu. Et donc, si on voit ces épreuves cachées dans le four, peut-être que les épreuves qui sont représentées par la cuisson sur la plaque ou dans la poêle sont davantage les épreuves qu'il a subies et qui ont été visibles et publiques et que les hommes ont pu voir. Donc, en tout cas, voilà, il y a une perfection du Seigneur, la fleur de farine, avec l'huile et l'encens, mais c'est une perfection qui a été éprouvée. La vie du Seigneur n'a pas été une vie facile. Et il a subi toutes sortes de contestations, d'oppositions, de pièges. Mais il est resté parfait et agréable à Dieu dans toutes ces circonstances-là. Et on remarque aussi qu'il nous est dit que... il y avait des galettes qui étaient pétries à l'huile et ensuite elles étaient ointes d'huile. Et donc peut-être qu'on peut voir dans le fait d'être pétri à l'huile, c'est le Seigneur qui a été conçu de l'Esprit Saint. Le Seigneur comme homme conçu de l'Esprit Saint, pétri à l'huile. Et dans les galettes ointes d'huile, on peut peut-être davantage voir l'aspect du Seigneur qui a été oint de l'Esprit dans son service public, celui qui a reçu l'Esprit Saint au Jourdain, au baptême du Jourdain, et qui ensuite a servi dans la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà, dans tout ce qu'a fait le Seigneur, dans tout ce qu'il a été, il y avait cette huile, soit pour pétrir la pâte, soit pour la oindre, donc la conception et la puissance du Seigneur dans son service. Donc voilà, ce à quoi nous fait penser l'offrande de gâteau. Et ce qu'on remarque dans cette offrande de gâteau, c'est que il y avait d'autres prescriptions et il y avait des choses qui étaient interdites, qu'il ne fallait pas intégrer dans l'offrande de gâteau. Et il y avait donc d'abord le levain. Donc c'était des gâteaux, des galettes sans levain. Et il est bien précisé, du levain et du miel, vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel. Donc le fait qu'il n'y ait pas de levain nous montre qu'il n'y avait pas de péché dans le Seigneur. On sait que dans le Nouveau Testament, on a trois expressions qui nous disent il n'y avait pas de péché en lui, il n'a pas commis de péché et il n'a pas connu le péché. Donc, il était comme ces galettes de oint, pétri à l'huile, oint d'huile, qui étaient sans levain. Pas de mal, pas de péché dans la personne du Seigneur. Et on remarque aussi qu'il y avait une autre chose qui était interdite, c'était le miel. Le miel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait réfléchir et qui est, je pense, important. Donc, il est bien précisé, verset 11, « Du levain et du miel, vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel. » Et on peut se demander, mais que représente le miel ? Dans la Bible, le miel, je pense que ça a plusieurs significations. Mais il y a une des significations du miel, c'est, on pourrait dire, la douceur des relations naturelles. Et on voit que quand il est précisé qu'il n'y avait pas de miel dans l'offrande de gâteau, ça, c'est pour souligner le fait que le Seigneur, il n'était pas animé par des sentiments naturels dans son service. Par exemple, on le voit vis-à-vis de sa mère. Il respectait sa mère, il était soumis à ses parents en Luc chapitre 2. Mais quand il est entré dans son service, je pense par exemple à la noce de Cana, quand sa mère vient lui parler, il lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» Et on voit, et on le voit d'autres reprises, vis-à-vis de quand sa mère l'appelle, ou quand on lui dit « Ta mère t'appelle et tes frères et tes sœurs t'appellent », ça n'a aucune influence sur lui. Quand il est entré dans son service, il était consacré à la volonté de Dieu et il n'était pas, il agissait pas sur la base de ses sentiments naturels ou de ses relations naturelles qui sont représentées par le miel. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que les relations de famille, elles sont mauvaises, mais il y a des relations naturelles qui pourraient... dans certaines occasions, pourrait nous détourner peut-être de la consécration au Seigneur. Et dans la vie du Seigneur, il n'y avait pas ça, pas de miel. C'est quelque chose aussi qui fait réfléchir par rapport à nos vies spirituelles. Voilà, dans quelle mesure il peut y avoir dans ce sens du miel. Et c'est important de voir que dans la vie du Seigneur, il n'y avait pas ce miel. Alors en français, on parle d'être mielleux. On comprend ce que ça veut dire. Mielleux, c'est quelqu'un qui paraît sympathique, mais qui n'est pas très sincère. Voilà. Dans la vie du Seigneur, dans son amour pour les âmes, il n'y avait pas ce côté, j'allais dire, un peu mielleux. C'était sincère, c'était transparent, c'était sincère, c'était franc. C'était un amour pur. Vous voyez ? Donc, pas de levain, pas de miel dans l'offrande de gâteau. Et il y avait aussi quelque chose qu'il fallait mettre spécialement, c'était du sel. Verset 13, toute offrande de ton offrande de gâteau, tu la saleras de sel. Sur toutes tes offrandes, tu présenteras du sel. Donc il fallait mettre du sel, et on peut se poser la question, que représente le sel ? C'est peut-être pas facile à dire. Le sel était utilisé comme conservateur. Donc, c'était quelque chose qui permettait de conserver des aliments. Et de ce qu'on comprend des références au sel qu'on peut voir ailleurs, il me semble que c'est le côté de de la sainteté. Voilà. Donc, il y avait dans la vie du Seigneur, c'est toutes ces perfections qui étaient là. Pas de péché, pas de miel, et une fidélité, une sainteté qui représentait dans le sel. Et tout cela, ça devait être exposé, même il est dit, brisé en morceaux et sur l'autel et répandu devant l'Éternel et qui montait en odeur agréable. Donc ça nous montre tout ce que Dieu a pu flairer d'agréable dans la vie du Seigneur. Et la question, c'est est-ce que nous apportons cela aussi dans notre culte à Dieu. Et il y avait là une particularité que l'on voit ici, c'est que ce sacrifice, donc cette offrande plutôt, elle était, donc il y avait une partie qui s'appelait le mémorial, qui était que pour Dieu, et ce qui n'était pas donné à Dieu, ça devenait la nourriture des sacrificateurs. On le voit. Ici, on le voit dans la description de la loi pour le sacrifice qui se trouve en chapitre 6, versets 7 à 11. Et donc, les sacrificateurs se nourrissaient des restes de cette offrande de gâteau. Et nous, les croyants, nous sommes des sacrificateurs, on l'a vu. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes des sacrificateurs ou des prêtres, on pourrait dire. Prêtres, sacrificateurs, c'est la même chose. La question est, est-ce que l'on se nourrit de la vie du Seigneur Jésus, de cette offrande de gâteau? Est-ce qu'on s'en nourrit, ça veut dire, est-ce que je m'en occupe? Est-ce que régulièrement, je lis les évangiles et je m'imprègne, je m'occupe, je remplis mon cœur, mon esprit de la vie du Seigneur Jésus? C'était la nourriture des sacrificateurs. Voilà, peut-être assez résumé, assez rapide, mais l'offrande de gâteau qui nous parle de la vie parfaite du Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Michael? Hein? Pas de questions? Ça veut dire que vous dormez? Hein? Ah oui. L'offrande de gâteau, comme le sacrifice pour le péché, il est précisé, verset 3 et un peu plus loin, c'est une chose très sainte. Très sainte. C'est-à-dire que Dieu signale spécialement cette offrande-là, c'est une chose très sainte. C'est, voilà, de s'occuper de la vie, de la personne, de la vie du Seigneur, c'est quelque chose qui est saint et on pourrait dire qui nourrit la sainteté, qui produit la sainteté. Voilà. Donc si on veut une vie de sainteté aussi, il faut se nourrir de ce qui est saint. Et il faut se nourrir de la vie, de la personne de notre Seigneur Jésus. Voilà, je pense que ce sont les idées principales de l'offrande de gâteau. Donc, holocauste, le Seigneur qui s'offre entièrement à Dieu, tout pour Dieu. L'offrande de gâteau, la vie de notre Seigneur, comme agréable à Dieu, chose très sainte, avec ses différents ingrédients, la fleur de farine, l'huile, l'encens, pas de levain, pas de miel, du sel, tout cela aussi comme nourriture pour les sacrificateurs. Alors je suis reconnaissant qu'on ne me pose pas des questions sur les trois derniers versets. Parce que ils ne sont pas faciles à comprendre et on ne va pas s'arrêter dessus. Mais peut-être qu'on peut continuer donc avec le sacrifice suivant, qui est le sacrifice de prospérité. Alors, chapitre 3, donc on a la description du sacrifice de prospérité et qui est aussi appelé odeur agréable à l'Éternel. Et on a dans le chapitre 7 du Lévitique, on a la loi du sacrifice de prospérité. Donc ça nous, on verra, ça nous explique des détails en rapport avec ce qui restait à manger de ce sacrifice de prospérité. Alors, sacrifice de prospérité, ce qui est particulier à ce sacrifice, c'était que c'était un sacrifice partagé. Donc l'Holocauste, tout était pour Dieu. Dans le sacrifice de prospérité, Dieu avait une partie, celui qui offrait avait une partie, les sacrificateurs, il y avait le sacrificateur officiant qui avait une partie, les autres sacrificateurs qui avaient une autre partie, et celui qui offrait en avait une partie et qui pouvait partager avec ceux qu'il voulait. On va voir. Donc, l'idée, vraiment l'idée principale du sacrifice de prospérité, c'est la communion. Dieu qui a sa part, nous qui avons la nôtre, et chacun dans le peuple de Dieu qui peut avoir sa part dans le sacrifice. Donc le sacrifice partagé qui nous parle de la communion que Dieu veut avoir avec nous au sujet de son Fils et au sujet de la mort de son Fils. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment important, c'est que non seulement Dieu trouve son plaisir dans la mort de son Fils, mais il veut le partager avec nous. Le partager avec nous et donc qu'il y ait communion entre Dieu et nous au sujet de son Fils. Voilà. Donc, quand on parle, on pense au sujet de la communion avec Dieu, c'est nous avons une relation avec Dieu, nous partageons des choses avec Dieu, mais là on voit que le Lévitique nous dit, mais la chose la plus, la chose pour ainsi dire, que Dieu veut partager avec nous, c'est avant tout le plaisir qu'il a dans la personne de son Fils et dans son œuvre. Donc, est-ce que chacun pense à sa propre vie spirituelle, est-ce que dans ma vie spirituelle, j'ai communion avec Dieu en rapport avec la mort et la vie de son Fils? Pour nous exercer, posons-nous ces questions. Et là, on voit clairement que c'était le désir de Dieu. Donc, de partager le sacrifice avec le reste du peuple. Et donc, ce qui était particulier avec ce sacrifice, c'était que, donc, dans le chapitre 3, là, on a l'impression, il est parlé que de ce qui est donné à Dieu. Et c'est dans la loi du sacrifice qu'on voit ce qu'il était fait de ce qui n'était pas apporté à Dieu. Donc si on lisait que le chapitre 3, on verrait ce qui est donné à Dieu seulement. Et ce qui est donné à Dieu, c'est la graisse et les parties intérieures. Le rein, l'intérieur, la graisse. Alors je ne suis pas... Je ne suis pas charcutier ni boucher, donc excusez-moi, je ne peux pas vous expliquer le détail des choses là. Mais ce que je peux comprendre, c'est que tout ce qui était intérieur était donné à Dieu. Et notamment la graisse. Et la graisse, de ce qu'on peut, je crois, comprendre, c'est que la graisse permet d'identifier si la victime, l'animal était en bonne santé ou pas. La graisse montre est un indice de la santé de l'animal. Et donc, une graisse qui était offerte à Dieu, c'était le Dieu qui appréciait la qualité intérieure de l'animal. Et donc, ça nous parle de tous ces sentiments du Seigneur Jésus, sa pureté intérieure, sa soumission à la volonté de Dieu, son amour pour faire la volonté de Dieu, sa consécration à la volonté de Dieu. Tout cela est représenté par les graisses et les parties intérieures de l'animal. Et donc tout cela était dans le sacrifice de prospérité pour Dieu. Donc on pourrait dire qu'il y a des choses que Dieu seul peut apprécier. Et on verra plus tard que la graisse, il était interdit d'en manger. C'était que pour Dieu. La graisse, que pour Dieu. Donc dans le chapitre 3, on voit cet aspect que la graisse de l'animal était offerte en odeur agréable à Dieu. Donc, je répète, tous les sentiments, les motifs intérieurs de notre Seigneur, sa confiance, sa dépendance, sa soumission, son amour, sa tendresse, tout ce qui était à l'intérieur de lui, en présenté devant Dieu. Alors, ensuite, il y a dans le sacrifice de prospérité, il y a la loi du sacrifice. La loi du sacrifice, donc en fait, ça nous explique. Donc il y avait la graisse seulement pour Dieu et tout le reste. Qu'est-ce qu'il fallait en faire? Et la loi explique cela. Alors, d'abord, on remarque que, voilà, j'ai dit, c'est un sacrifice qui était partagé. Donc, il y avait une partie pour Dieu et une partie pour les sacrificateurs. Pour le sacrificateur qui officiait au sacrifice, pour les sacrificateurs, et le reste était pour celui qui offrait avec ses invités ou ses amis, en quelque sorte. Et là, dans la description, dans la loi, il y a deux cas qui sont présentés. Il y a, si c'est offert comme action de grâce, chapitre 7, verset 12, ou verset 16, si c'est offert comme un vœu. D'accord? Et donc il y a deux cas. Et on comprend que l'action de grâce, c'est peut-être que l'Israélite, il avait éprouvé une bénédiction particulière de la part de Dieu. Et en reconnaissance pour cette chose qu'il avait éprouvée, il voulait manifester sa reconnaissance et il offrait un sacrifice de prospérité. Un vœu n'est pas lié avec une expérience particulière. Voilà, c'était plutôt une décision. Pour quel motif, c'est pas dit, mais c'était une décision de l'Israélite d'offrir un sacrifice de prospérité. Et cela avait un impact sur le fait qu'on pouvait manger du sacrifice, comment dire, de jusqu'à quand on pouvait manger du sacrifice. Si c'était une action de grâce, il fallait le manger le jour même où il était offert. Et si c'était un vœu, on pouvait le manger soit le jour même, soit encore le lendemain, mais jamais après. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. C'est-à-dire que le fait de manger devait être intimement associé au moment où le sacrifice était offert. On ne pouvait pas en manger 3 jours après. Le jour même, peut-être le lendemain, dans le cas du vœu, mais jamais après. Et donc ça, on pourrait dire, ça nous montre que la communion que l'on peut avoir avec Dieu, et je pense aussi même la communion chrétienne entre nous, elle est liée au sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et nous ne devons jamais oublier que si nous pouvons avoir communion avec Dieu et communion les uns avec les autres, c'est sur la base de la mort du Seigneur Jésus, de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et donc une communion, entre guillemets, du troisième jour ou du quatrième jour ou du cinquième jour, c'était une communion que Dieu refusait. Vous comprenez ? Donc la communion avec Dieu, la communion entre nous, en tant que croyants, ça doit être une communion en rapport vraiment avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Voilà. Ce n'est pas des relations sociales, parce qu'on s'entend bien, on a des centres d'intérêt communs, on a à peu près le même âge, les mêmes loisirs, on aime les mêmes choses, et donc on vit ensemble et on s'entend bien. La communion des croyants, la communion chrétienne, ce n'est pas ça. C'est une communion qui est fondée et de laquelle on jouit en rapport avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Ça, c'est un point que je pense important de comprendre et de se souvenir. Voilà. Alors, ça, c'était donc deux types de sacrifices de prospérité et qui donnaient une indication sur jusqu'à quand on pouvait en manger. Ensuite, dans la loi, donc il est précisé cela, et il est précisé aussi, verset 19 à 21, les conditions pour en manger. Voilà. C'est-à-dire que c'était un sacrifice qui était ouvert, donc partagé, mais dans un sens, il y avait la possibilité que pour tout Israélite d'en manger, mais dans certaines conditions. Et c'est des conditions de pureté. On voit, verset 19, « La chair qui aura touché quelque chose d'impur ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. » C'est-à-dire, si dans ce qui était offert, dans la chair qui était offerte, il y avait quelque chose d'impur, c'était un sacrifice qu'il fallait écarter. Ce n'était pas un sacrifice qui serait en odeur agréable à Dieu. Donc ça nous montre que si on apportait quelque chose, un contenu qui n'est pas qui est impur dans ce sens, c'est-à-dire si je dans mes prières je parlais du Seigneur Jésus avec des choses fausses sur la personne du Seigneur Jésus, c'est comme si j'apportais une chair impure. Dieu ne reçoit pas une telle offrande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ce que nous apportons, il doit y avoir la pureté dans le sens que nous apportons vraiment ce que Dieu nous a révélé dans sa pureté. Et puis il est dit, la chair, quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair. C'est-à-dire que, dans un sens, c'était un Israélite pur pouvait manger, mais un Israélite impur ne pouvait pas en manger. Donc ça nous montre que pour participer à la communion du peuple de Dieu, eh bien, ce sont les personnes pures qui peuvent. Un incrédule ne peut pas avoir communion avec les croyants. Il est impur dans ce sens. D'accord ? Donc ce sont ceux qui ont été purifiés qui peuvent participer à cette communion. Et il est dit aussi... si une âme, verset 21, touche quoi que ce soit d'impur, impureté d'homme ou bête impure ou toute autre chose abominable et impure, et qu'elle mange de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. C'est-à-dire que non seulement la personne devait être pure elle-même, mais elle ne devait pas toucher de choses impures. Sinon, si elle touchait des choses impures, elle était considérée comme souillée et elle ne pouvait pas participer. Elle devait être retranchée de ses peuples, comme il est dit. Donc ça nous montre aussi cet aspect de toucher, ça nous montre aussi ce à quoi nous nous associons. Donc, important d'être pur soi-même, mais important aussi de ne pas toucher des choses impures. Si je m'associe dans ma vie, c'est-à-dire touche des choses impures, des choses fausses, des choses impures, je ne peux pas participer à la communion qui est représentée par le fait de manger du sacrifice de prospérité. Donc ça, c'est... Et ça, quand je disais tout à l'heure, au tout début, que quand l'apôtre Paul il parle de la table du Seigneur en 1 Corinthiens 10, il dit, il fait référence exactement à ça. Il dit, 1 Corinthiens 10, verset 17, je crois, il dit, « Considérez Israël selon la chair, ceux qui mangent du sacrifice n'ont-ils pas communion avec l'autel ?» 18, 1 Corinthiens 10, 18. C'est-à-dire que quand le Paul développe le sujet de la table du Seigneur, il fait exactement référence à ce que nous lisons ici. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui extrapolons ce que le texte dit ici, mais c'est Paul, l'explication sur la table du Seigneur, qui fait référence à cela. Donc ça nous montre que c'est une vérité, un aspect de la vérité qui est encore vrai pour aujourd'hui. D'accord ? Donc, un privilège merveilleux, avoir communion avec Dieu et avec la famille des sacrificateurs au sujet de son fils, au sujet de la mort de son fils, mais dans des conditions de pureté. Et ceux qui ne répondent pas à ces conditions de pureté ne peuvent pas participer. Et un autre point qu'on voit un peu plus loin, que j'ai mis en rouge, c'est voilà, ce sacrifice de prospérité, la graisse pour l'Éternel. Et il y avait deux autres parties dont il est parlé précisément. C'était la poitrine et l'épaule droite. Et il est dit, comme là, dans le paragraphe verset 28 et suivant, là, il est dit, donc il y avait la poitrine tournoyée et l'épaule droite comme offrande élevée. Et donc ces deux parties, elles étaient prises et elles étaient données spécialement à la famille des sacrificateurs. Et l'épaule droite, elle était donnée au sacrificateur qui officiait, et seulement à lui. Et me semble que ça, comment on peut le comprendre, c'est que l'épaule droite nous parle de la force. Et dans ce sacrifice partagé, il y a une personne qui avait l'épaule élevée, l'épaule droite, c'est-à-dire que, voilà comment je comprends, c'est qu'il n'y a que cette personne, ça représente le Seigneur, et il n'y a que le Seigneur qui a vraiment connu la force nécessaire, la force qui a été nécessaire pour accomplir son œuvre sur la croix. Donc il y avait cette épaule droite, elle était réservée pour le sacrificateur officiant, et je comprends que cet aspect de comprendre la force nécessaire pour aller jusqu'à la croix et pour se laisser clouer sur la croix et pour endurer le jugement de Dieu, il n'y a que notre Seigneur Jésus qui peut vraiment entrer dans cela. La force nécessaire pour accomplir l'œuvre de la croix, l'épaule droite pour le sacrificateur seul. Et la poitrine qui nous parle plutôt du cœur, elle était donnée pour la famille des sacrificateurs. Pas pour le seul sacrificateur qui officiait au sacrifice de prospérité, mais pour toute la famille des sacrificateurs. Et la poitrine, ça nous parle donc de l'amour, le cœur. Et donc, c'était le privilège des sacrificateurs de comprendre un peu, quelque chose de l'amour qui a été manifesté par notre Seigneur dans son œuvre sur la croix. Et donc c'est le privilège de ceux qui sont sacrificateurs, et nous sommes tous sacrificateurs, de nous occuper, de nous nourrir de l'amour du Seigneur et de cet amour qu'il a fait, qu'il est allé jusqu'à la croix. La poitrine donnée à la famille des sacrificateurs. Donc la force, l'épaule droite, que pour le Seigneur, sacrificateur officiant, la poitrine, l'amour, la part pour la famille des sacrificateurs. Et tout le reste était donné en nourriture pour celui qui avait apporté le sacrifice de prospérité et pour ceux qui voulaient manger avec lui. D'accord ? Donc on voit vraiment dans ce sacrifice de prospérité, on pourrait dire, l'adoration collective et la communion réalisée dans l'adoration collective. Donc c'est vraiment une image du culte que l'on peut apporter à Dieu, et aussi une image de la communion que nous avons à la scène, dans la fraction du pain, avec le Seigneur et entre nous. Et voilà. Et donc la caractéristique de la spécificité de ce sacrifice, c'est qu'il était partagé. D'accord ? Donc Dieu veut avoir communion avec nous, et communion avec nous au sujet de son Fils. Et il veut nous faire manger cette poitrine, cet amour du Seigneur qui s'est donné. Voilà les idées principales, je pense, de ce sacrifice de prospérité. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas que Michael qui a le droit de poser des questions. Alors on voit dans les sacrifices, il est toujours dit, le sang et la graisse pour Dieu seulement. Voilà. Aucun homme n'avait le droit de manger du sang ni de la graisse. C'était la part exclusive de Dieu. Pas de questions. Là, il pose la question sur le fait de manger le jour même ou le jour d'après, mais pas plus tard. Donc ça veut dire que l'action de grâce, il y avait deux sacrifices. Il y avait un qui était comme action de grâce et un comme vœu. En fait, le vœu, ça décrit peut-être une condition spirituelle plus élevée. C'est-à-dire, je m'approche de Dieu, pas seulement pour un bienfait que j'ai reçu, mais peut-être en rapport avec une réflexion que j'ai eue au sujet de Dieu, et je m'approche de Dieu. Donc ça décrit quelque chose, un état peut-être plus quelque chose de plus profond. Et donc Dieu dit, dans un tel cas, on peut manger un peu plus longtemps, le jour d'après aussi. Ok ? La signification, c'est qu'en fait, il y a un lien entre le fait de pouvoir manger et le moment où le sacrifice a été offert. Et que Dieu ne veut pas une déconnexion de ces choses. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'il y ait communion de façon déconnectée de l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il veut que nous soyons vraiment conscients que la communion est en rapport avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Voilà. Je sais pas. Bon, donc peut-être juste pour... On s'arrête ou 5 minutes de plus ? Après, il y a les sacrifices de qu'on a, dont on n'a pas parlé, c'est les sacrifices de pour le péché et pour le délit. Donc il y avait deux autres sacrifices qui sont très liés et qui sont des sacrifices qui étaient des sacrifices obligatoires parce que ils devaient être offerts si quelqu'un avait péché. D'accord ? C'est donc pas des sacrifices volontaires, mais pour être pardonné, il fallait offrir un sacrifice pour le péché. Voilà. Et donc c'est l'aspect plutôt du Seigneur qui a été notre remplaçant, notre substitut, et qui a pris nos péchés sur lui. D'accord ? C'est donc un autre point de vue de la mort du Seigneur, c'est celui qui a pris sur lui nos péchés. Et que c'est lui qui a subi le jugement que méritaient nos péchés, le sacrifice pour le péché. Et dans Lévitique 4, donc il est question de sacrifice pour le péché, il y a quatre cas qui sont décrits. Si c'était le sacrificateur ou un principal qui avait péché, si c'était l'assemblée qui avait péché, si c'était un chef qui avait péché ou si c'était un individu du peuple qui avait péché. Donc, on pourrait dire qu'en fonction des responsabilités de la personne, il y avait un degré de gravité. Voilà. Peut-être un premier message. Mais à chaque fois, quel que soit le péché, si on offrait le sacrifice pour le péché, on était pardonné. Et Dieu dit, il est pardonné, il sera pardonné. Donc il y a une certitude du pardon sur la base du sacrifice offert. Et peut-être encore juste une petite chose. La différence entre le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour le délit. Dans le sacrifice pour le délit, il y a une notion supplémentaire qui vient. Alors, je dis, pour ceux qui veulent regarder, c'est chapitre 5, versets 14 à 26. Là, c'est vraiment le sacrifice pour le délit. Et il y a la notion de restitution. C'est-à-dire que dans le cas de sacrifice pour le délit, celui qui avait péché, il devait non seulement apporter un sacrifice pour être pardonné, mais il devait restituer ce en quoi il avait commis un délit, et il devait donner un cinquième de plus. Donc, c'est cette idée de restitution. C'est compliqué. J'aurais des difficultés d'expliquer la nuance, mais on va dire que sacrifice pour le délit, c'est qu'il y a les droits de quelqu'un, on a porté atteinte aux droits de quelqu'un, soit aux droits de Dieu, soit aux droits d'une autre personne. Et dans chacun de ces cas, on devait rendre la chose à laquelle on avait porté atteinte, en payant une amende par-dessus, et le sacrifice pour le péché. Donc, voilà, c'était un peu la nuance. Alors, je ne voudrais pas entrer trop dans le détail maintenant, peut-être sur les applications, mais voilà, le sacrifice pour le péché, c'est en rapport avec les péchés commis, pour être pardonné, on apportait ce sacrifice. On mettait la main sur la tête de la victime, pour que nos péchés soient transférés sur la victime et que le jugement tombe sur la victime et pas sur nous-mêmes. D'accord ? Donc c'est un autre point de vue que celui de l'Holocauste. L'Holocauste, on mettait la main sur la victime pour recevoir la perfection de la victime, et le sacrifice pour le péché, on mettait la main sur la victime pour transférer nos péchés sur la victime. Mais je pense qu'on a eu suffisamment maintenant et on peut s'arrêter. Je répète, s'il y a des questions, je veux bien essayer d'y répondre, mais voilà, je pense que c'est quand même un voilà. Si on a si on saisit un peu la nuance entre holocauste, offrande de gâteau, sacrifice de prospérité et ce que cela représente pour nous aujourd'hui, c'est déjà bien. Et donc retenons que Dieu veut qu'on lui apporte ces sacrifices spirituels, que ces choses-là, matérielles de l'Ancien Testament, Dieu veut qu'on les lui apporte spirituellement dans le culte, dans nos prières, dans nos cantiques, dans nos pensées. C'est le culte que nous pouvons apporter à Dieu maintenant.